Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Séverine est la maman de 3 enfants, devenus maintenant adolescents. Comme une évidence, le sujet de la maternité est arrivé dans son couple de manière plutôt sereine. Un garçon, puis 2, puis 3 garçons. Ce qu'elle n'avait pas prévu dans ses 3 naissances est que la deuxième arriverait telle une pochette surprise, avec son lot de bonheur et de difficultés. Pourtant, Séverine pressentait que quelque chose n'allait pas pour son bébé, et elle a dû faire des pieds et des mains pour être entendue, évitant ainsi de justesse la mort de son bébé. C'est alors que le verdict est tombé, son enfant a le syndrome de Williams-Séberen. Dans cet épisode, Séverine nous raconte ses 3 grossesses, son entrée dans le monde du handicap et la relation entre 3 frères dont l'un des 3 garçons est extraordinaire. Bonne écoute. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci à toi de m'accueillir.
Alors tu es la maman de 3 enfants, 3 garçons.
Oui.
Quel âge ils ont ?
Alors il y a Thomas qui aura bientôt 19 ans, Valentin 16 ans et Louis 11 ans et demi.
Et à quel moment la maternité est arrivée au sein de ton couple ?
Dès le début, en fait, mon mari et moi, on s'est rencontrés, on avait 26 ans. On avait vraiment le désir de fonder une famille. Le désir d'enfance s'est vraiment manifesté, on va dire, au bout de 3 ans. Et il y a une petite année qui s'est écoulée avant qu'on attende notre premier heureux événement. On va dire vers 29 ans à peu près, il y avait vraiment le désir de créer une famille.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Les premières semaines, c'était juste, les nausées jusqu'au malaise. Donc là, c'était assez compliqué. J'étais enseignante à l'époque et en fait, j'ai fait la matinée de rentrée et l'après-midi, j'ai déjà été en arrêt. J'ai senti très très tôt, en revanche, que j'étais enceinte avec des petits signes, le corps qui parlait. Sinon, après une grossesse, une fois que, on va dire, le premier trimestre est passé, une grossesse... La première grossesse, vraiment très bien. J'étais très épanouie et très très heureuse d'attendre mon premier enfant.
Et l'accouchement, tout s'est bien passé ?
Oui, sauf que j'ai la particularité d'accoucher, ça prend du temps. Le premier et le troisième, ce deuxième était un petit peu particulier, un travail de 20 heures. Ouais. Mais que le premier, j'ai perdu les os, donc direction la maternité. Mais il a fallu encore attendre un petit moment, 20 heures effectivement, avant que mon premier enfant naisse. Jusqu'à la dernière heure, on partait pour la césarienne. Effectivement, ah oui. Ouais, j'avais pas de dilatation du col. Et puis finalement, en une heure de temps, ça y est, tout était là. J'ai accouché par voie basse, ce qui me soulageait.
Ouais.
Ouais, parce que j'appréhendais quand même. Quand on t'annonce la césarienne alors que tu t'y attends pas, j'avoue que j'ai eu un petit moment, de peur, vraiment. Ouais. Et puis, je m'étais préparée finalement la césarienne. Et après, on me dit non, maintenant, hop, il faut pousser, il faut y aller. Et là, mais comment est-ce qu'on fait déjà ? Enfin, c'était assez épique. Mais finalement, il n'y a vraiment pas eu de soucis, pas de complications.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman en rentrant à la maison ?
Oui, alors en même temps, il y avait un contexte particulier puisque le jour où mon fils est né, ma deuxième grand-mère était enterrée. Sachant que j'ai perdu mon autre grand-mère 4 mois avant. Donc autour de cette naissance, il y avait vraiment... je craignais de tomber dans une dépression postpartum, clairement. J'avais peur d'avoir ou le baby blues ou pire, la dépression. Parce que je me suis dit, il a eu trop de chocs émotionnels. Et finalement, le retour à la maison s'est fait dans la sérénité. Ouais, je me sentais bien, mais c'est vrai qu'en même moment, c'est-à-dire j'ai perdu donc ma grand-mère, enfin, elle était enterrée le jour de la naissance de mon fils. Mais on apprenait également le décès le jour même d'un petit garçon qui aurait été son cousin. Donc autour de la naissance de mon fils, il y avait quand même des événements douloureux qui paradoxalement, je crois, m'ont aidé vraiment à relativiser, finalement à aller vraiment bien et à accueillir cette maternité avec beaucoup de joie et de gratitude envers la vie.
Et alors, 2 ans plus tard, donc vous faites le petit deuxième ?
Oui, sauf que ce n'était pas prévu aussitôt. En fait, on avait vraiment, vraiment envie d'un deuxième enfant. On venait d'emménager dans notre maison. Il y avait beaucoup de soucis avec les travaux, etc. On était assez accaparés par pas mal de choses. Notre premier avait quand même un reflux gastro-œsophagien sévère. Ce qui avait entraîné chez lui pas mal de complications, et puis il avait un petit tempérament, c'était vraiment il était assez difficile, ce qui fait qu'on avait un peu de mal à trouver notre place en tant que couple. Et finalement je suis tombée enceinte sans m'en rendre compte. Il y a eu un oubli de pilule, et du coup bien que je savais au fond de moi je voulais une deuxième grossesse, je voulais avoir un deuxième enfant, j'étais habitée par des sentiments assez mitigés, c'est-à-dire je ne me sentais pas prête à ce moment-là pour accueillir ce deuxième enfant, et en même temps je ne voulais pas interrompre cette grossesse parce que je m'étais dit on ne sait jamais quoi c'était très difficile les deux trois premiers mois. Le premier mois et demi je n'étais pas au courant que j'étais enceinte, et lorsque je l'ai appris, voilà, il m'a fallu 3 bonnes semaines avant d'accueillir cette grossesse comme je le voulais. Et voilà, après, j'étais heureuse d'être enceinte. Néanmoins, voilà, j'avais des petits signes qui m'alertaient sur la santé de mon bébé. Je ne le sentais pas. Alors déjà, je ne grossissais pas autant que pour le premier, qui pourtant n'était pas un gros bébé. Mon premier, il faisait que 2,9 kg. Mais là, voilà, je ne grossissais pas assez, et je sentais que le bébé était moins vigoureux dans mon ventre. Il ne bougeait pas autant que son grand frère. Donc même si, voilà, on sait que chaque grossesse est différente, pour moi, il y avait autre chose. Et à 6 mois de grossesse, là, il y a eu, suite à la deuxième échographie, ou troisième, j'avoue que je perds un peu le fil du temps, on a décelé, enfin l'échographiste a décelé un léger souffle au cœur. Qui a nécessité d'autres investigations. Donc là, du coup, je suis allée à la maternité. On m'a gardée en observation. On a diagnostiqué un retard pondéral. Et il a été vu, ils ont fait venir un échographiste spécialiste du cœur de l'Institut de Périculture de Paris, qui finalement a dit non, c'est un souffle au cœur, ça arrive chez beaucoup de bébés, donc en gros, il faut lui laisser le temps de grossir et tout ira bien.
Et toi, t'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là ?
Je t'avoue que la suite de cette échographie qui a un petit peu alerté, sachant que j'avais une grande confiance dans l'échographiste, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc ma petite voix quand même me parlait de plus en plus fréquemment. J'étais pas tellement sereine, et puis en même temps je me dis bon allez bébé, faut que tu grossisses, on va faire du gras. Et donc moi là je travaillais encore, mais j'ai dû finalement être mise en arrêt de travail, non pas pour moi mais pour permettre au bébé vraiment de grossir. Là il faut qu'il arrive à terme en ayant un poids suffisamment grand.
Ça impliquait quoi du coup au quotidien ? Qu'est-ce que tu devais faire pour le faire grossir ?
Clairement ils m'ont dit vous allongez, vous reposez. Voilà, c'était vraiment rien de plus. Pas que je mange particulièrement, mais vraiment, on m'avait dit vraiment de ménager. Voilà, j'enseignais, donc j'avais mon aîné qui avait 2 ans et demi, et en gros, j'avais trop tiré sur la corde. Donc, il mettait ça plutôt sur, on va dire, mon rythme à moi. Okay. Voilà, donc je me suis dit, je vais faire du lard. J'ai pas fait beaucoup de lard. Il grossissait pas beaucoup quand même, je voyais.
Oui. Et alors, comment ça s'est passé ?
Ensuite, il y a eu encore du coup d'autres échographies de contrôle. Et il y en a une où là, ils ont dit, bon, il y a eu un mois après où ils m'ont dit finalement c'est bon, il a repris du poids, tout va bien. Bon, j'étais à nouveau confiante. Et puis à l'échographie suivante, je n'ai plus vraiment précisément la date, est-ce que c'était 15 jours ou 3 semaines. Mais là, par contre, ils m'ont dit non, là, il n'a pas assez grossi. Donc, un accouchement. Et comme ils se présentaient par le siège, ils ont dit on va tenter la version.
Donc là, tu étais à combien?
Et là, j'étais à 8 mois de grossesse.
D'accord.
Voilà. Et donc là, ils m'ont dit on tente la version. Je ne conseille à personne parce que c'est extrêmement douloureux. Et en fait, ils ont remarqué que son cœur lâchait vraiment. Donc, ils ont dit il ne peut pas accoucher par voie basse. Donc là, césarienne obligatoire. En revanche, on m'a fait rentrer à la maison, mais la césarienne était programmée un ou deux jours après. Okay. Et donc là, je suis rentrée, et le matin de la naissance, j'ai déposé mon grand à la crèche en lui disant « c'est assez étrange, mais voilà, ton petit frère naît ce matin ». Ce qui est assez surprenant, parce que voilà, je pars, tout est programmé, je pars avec ma valise à la maternité, je dépose d'abord mon fils à la crèche, et puis ben, une césarienne, c'est on va au bloc, quoi. Donc c'est quelque chose... voilà, il y avait de l'appréhension aussi, et surtout qu'il y a certaines maternités qui autorisaient à ce que les papas assistent à l'opération, et là, non. Là,
ah oui, d'accord.
Non, là j'étais vraiment seule, j'allais vraiment au bloc. Voilà, c'est un univers très froid, et encore une fois, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais sans pouvoir, sans savoir quoi encore.
Et alors, donc césarienne ?
Césarienne, où là, ils ont été très bien, puisqu'ils m'ont expliqué exactement tous les gestes chirurgicaux qu'ils faisaient. Bien sûr, la péridurale, l'anesthésie, etc. Ils m'ont dit, voilà, on ouvre. Enfin, il y avait un drap, bien sûr, mais on me décrivait absolument tous les gestes qu'ils faisaient, donc ça, c'était très bien. Ils l'ont sorti, et quand je l'ai vu très très petit. Alors, il faisait un peu plus de 2,1 kg. Mais vraiment, c'est ce qui m'a frappée. Et donc, ils l'ont mis dans mes bras. Mais mes premiers mots étaient « prenez grand soin de lui », parce que je sentais qu'il y avait quelque chose vraiment qui n'allait pas. Et ensuite, ce qui a été difficile, c'est qu'on a été séparés plusieurs heures. Il s'occupait de lui. Et moi, donc j'étais en salle à côté de surveillance parce qu'une césarienne, c'est quand même particulier. Par contre, après, ils me l'ont ramené, on va dire, au bout de 6 heures. On a été enfin réunis. Il a échappé à la néonate. Il a juste eu besoin d'être réchauffé, etc. On avait une chambre individuelle puisque c'était la césarienne. Il dormait beaucoup. Il n'arrivait pas à s'alimenter. Donc moi, je voulais absolument l'allaiter. J'avais allaité mon premier. C'était très, très bien passé. Et là, il n'y avait pas le réflexe de déglutition. C'était quand même quelque chose d'assez compliqué. Néanmoins, il avait petit à petit repris du poids, et au bout des 5 jours réglementaires, voilà, on est rentré à la maison. D'accord. Et c'était un bébé, vraiment, je le posais, il dormait beaucoup, et en fait il dormait tellement qu'on devait le réveiller pour l'alimenter, donc il ne réclamait vraiment pas. Je passais l'aspirateur à côté, je sais pas si c'est moi, mais en tout cas il y avait l'aspirateur à côté, il ne se réveillait pas, donc je trouvais ça quand même assez étrange. Donc, j'étais pleine d'interrogations, pleine de doutes. Et je voyais vraiment très, très, très petit. Et ça me préoccupait.
Et les médecins, ils t'avaient dit quoi suite à l'accouchement? Il n'y avait pas de...
Non, ils n'ont rien décelé. Non, surtout que voilà, ils font, tu sais, tous les tests qu'on fait après à la naissance d'un nouveau-né. Tout allait bien, vraiment, au niveau de ces tests. C'était un petit poids de naissance. Comme il avait échappé à la néonate, voilà, ils disaient non, mais... rentrer, puis on verra bien. Voilà.
Pour le souffle au cœur, il y avait
même... Non, en fait, ils avaient dit ça arrive vraiment fréquemment chez des nourrissons, et ça va se résorber. Sincèrement, je ne me souviens même pas s'ils lui ont fait une échographie cardiaque à la naissance. Je n'ai pas le sentiment, vraiment. J'avais qu'une hâte, on était début décembre, j'avais qu'une hâte, c'était quand même rentrer à la maison et pouvoir recréer tout mon petit cocon autour de ma petite famille, surtout avec Thomas qui n'avait que 2 ans et demi. Le quotidien a repris, on a repris le rythme. Et puis en revanche, le 25 décembre au matin, il n'avait que 20 jours, il avait 38 de température. Donc, je dis, bon, un bébé qui fait 2,2 kg, 38,2, là, il va falloir quand même aller à l'hôpital. Je revois la scène comme c'était hier. On a pris le temps d'ouvrir les cadeaux avec notre aîné. On trouvait ça vraiment très important. On ne voulait surtout pas lui gâcher ce moment-là. Et puis après, je dis, direction les urgences. En fait, je ne sais même pas si j'ai téléphoné, genre SOS médecin, mais bon, voilà, tu te dis, non, un nouveau-né aussi petit. Donc, direction les urgences. Et là, ils l'ont pris tout de suite, mais néanmoins, le 25 décembre, pas de place. Donc, il a été transféré dans le 15e. là où il y avait une maternité qui pouvait l'accueillir. C'était un virus, on n'a jamais su ce que c'était, mais voilà, jusqu'au 4 janvier. Donc il y a eu Noël et le jour de l'an passé là-bas. Et je tenais vraiment à l'allaiter, mais il n'y avait vraiment rien à faire. Et parce qu'il s'endormait au sein, il n'arrivait pas à téter. Enfin, vraiment, c'était vraiment particulier. Et là, je suis vraiment reconnaissante envers le médecin qui nous avait accueillis dans cette maternité. Il voyait bien à quel point je tenais à l'allaiter. Mais néanmoins, il m'a vraiment fait déculpabiliser. Il m'a dit que ce qui comptait, c'était qu'il se nourrisse. Et même si j'essayais de tirer mon lait, ça ne marchait pas. Donc c'était vraiment quelque chose que je me souviens avoir très très mal vécu. J'avais un sentiment d'échec. En gros, je suis une mauvaise mère, j'arrive même pas à allaiter mon fils, j'arrive même pas à tirer mon lait. Non, je crois qu'il y avait un vrai blocage. Mais à partir du moment voilà, où on l'a alimenté par un lait maternisé, il a commencé à regrossir, à stabiliser enfin, un petit peu tout son état de santé. Mais voilà, le 31 décembre, j'étais sur le périph'. Je lui avais dit au revoir, je voulais être là au réveil de mon grand le lendemain. Donc j'étais déjà déchirée par. Voilà, j'ai une famille qui est déjà séparée, j'en ai un qui est à l'hôpital à 20 km de chez moi. Et donc là, déjà, en tant que maman, c'était un moment très douloureux. Mais ça ne s'est pas arrêté là, malheureusement. Donc,
comment ça a évolué?
C'est surtout lui, je trouvais qu'il faisait pas les choses. Comment dire, je me souviens, voilà, son premier sourire a été très tardif. Le jour de la Saint-Valentin, c'est-à-dire le jour de sa fête, donc il avait 2 mois et demi, donc j'ai été évidemment heureuse, mais je me dis c'est quand même bizarre, il n'était pas réactif, hein. Il y avait vraiment des petits signaux qui m'alertaient, je devais toujours le réveiller pour le nourrir, enfin, c'était assez compliqué. Bon, on voyait la pédiatre qui disait rien de plus que oui, il a eu un retard de croissance intra-utérin, enfin, tout était balayé. Après, il y a une petite boule qui est apparue à l'aine, donc c'était une hernie inguinale. Il a été opéré un petit peu en urgence parce que c'est quelque chose à prendre au sérieux, parce que ça peut aboutir à des complications au niveau intestinal. Mais néanmoins, voilà, ils nous ont dit c'est très fréquent chez les petits garçons de moins de 1 an. Donc, pas plus d'inquiétude que ça. Hospitalisé, opéré, tout se passe bien, on rentre à la maison. Puis là, effectivement, il a retrouvé l'appétit, il est devenu un bébé même joufflu. Comme mon grand n'était qu'en crèche, on s'est accordé des vacances au mois de mai, on est allé en Guadeloupe, voilà, tous les quatre. Et finalement, là, c'était chouette. Enfin, il souriait. Enfin, c'était vraiment vie de famille comme dont je rêvais.
Ça t'avait apaisé, ça?
Ouais, ça m'avait vraiment apaisé parce que j'avais vraiment l'impression de retrouver, Enfin voilà, je mettais les mêmes habits que mon grand mettait à peu près au même mois. Enfin, c'est un truc tout bête, mais le fait qu'il ait pris du poids, c'est quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment rassurée. Mais après, quand on a commencé la diversification alimentaire, et bien là, il n'arrivait pas du tout à prendre la cuillère, il n'arrivait pas à avaler. Tout était mouliné, mais c'est comme si en fait il ne savait pas. Donc là, pareil, des petits signaux qui alertaient. La pédiatre, pas du tout préoccupée, enfin pas plus que ça. Elle mettait tout sur le compte de son retard de croissance intra-utérin. L'été démarre, à 8 mois, il ne se tenait pas assis. Et là, je me disais, non, là, c'est quand même pas normal. Il y a autre chose, sans savoir quoi. Mmh. La pédiatre qui disait, c'est toujours dû à son retard intra-utérin. D'accord. Je reprends le travail, le chemin de ma classe en septembre. Valentin, donc, rentre à la crèche. Là, le bébé de rêve. Tout le monde me décrivait le bébé idéal. On le pose, il sourit, il dit rien, il ne râle pas. Il est vraiment hyper calme. Enfin, tout va bien. Et au bout de 15 jours, du jour au lendemain, là par contre les auxiliaires de puériculture de la crèche m'ont appelé en me disant il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne me disait pas quoi, et c'est comme si en fait elle-même elle avait vu quelque chose mais qu'elle n'arrivait pas à nommer. Et en fait je l'ai récupéré ce jour-là, il était complètement éteint, il ne regardait plus personne, il était ailleurs, et en même temps il commençait à vomir, et à vomir en jet. Et comme mon grand avait un reflux, la pédiatre, cette fois-ci, a tout mis sur le compte d'un reflux. Et là, j'avais beau insister, je dis, c'est plus que ça, c'est autre chose. Je n'ai pas du tout été entendue. Donc, on va dire, pendant septembre, octobre, je voyais mon petit qui dépérissait, qui s'éteignait, qui perdait du poids. Alors, je n'ai plus du tout la notion des poids pour un bébé de presque 1 an, mais je me souviens juste qu'il avait perdu 400 grammes en l'espace de 10 ou 15 jours, et qu'on voyait ses côtes. Et là, et il ne tenait toujours pas assis. Donc là, je commençais vraiment à être très, très inquiète. Mon mari, qui au début disait « Oui, bon, ça c'est ton côté mère poule, tu vois tout en noir », lui aussi commençait quand même à se poser des questions. Et jusqu'à un matin où on avait rendez-vous chez la pédiatre, et le rendez-vous a été annulé sans qu'on soit au courant, et on s'est retrouvés dans la rue tous les quatre. Et là, on s'est dit on ne peut pas en rester là. Et donc, on a décidé d'aller aux urgences. On a confié mon grand à son grand-père qui venait juste de fêter sa retraite. Et on est allé donc à l'hôpital Trousseau, en pleine période de gastro, début novembre 2004. Il y avait 30 familles dans la salle d'attente. Nous, on s'est avancé un petit peu hésitant, en disant, voilà, il y a peut-être une gastro, peut-être un reflux. On explique les symptômes. En fait, ils nous l'ont pris tout de suite. Et ils ont fait passer vraiment devant tout le monde. Et là, mon mari et moi, on s'est regardé et on s'est dit, là, il y a quelque chose vraiment de sérieux. On était dans l'attente. Ils l'ont vraiment examiné sous toutes ses coutures, plein de prélèvements sanguins. Et en fait, au bout de à peine 2 heures, un médecin, un néphrologue, en fait, est venu et nous a dit qu'ils avaient identifié pourquoi il ne se nourrissait pas, pourquoi il vomissait en jet et pourquoi il était replié sur lui-même. C'est qu'il avait donc un taux de calcium trop élevé et que 2 jours plus tard, Valentin n'était plus de ce monde. Voilà. Donc là, je ne sais plus trop comment j'ai réagi. Je pense que je me suis effondrée. Parce que tu revois toute la scène. On s'était dit aussi qu'on aurait pu lui éviter toutes ces souffrances si on s'était écouté, si on nous avait écouté un petit peu plus tôt. Et à partir de là, l'urgence était de stabiliser sa calcémie. Et également qu'il se nourrisse et qu'il reprenne du poids. Et donc là, on est parti pour presque un mois d'hospitalisation, à faire des investigations dans tous les sens, parce qu'une fois qu'ils avaient réussi à régulariser son taux de calcium, en lui donnant un lait sans calcium, et ensuite en enrichissant vraiment son alimentation, la question était d'où ça vient. Et ils ont envisagé dans un premier temps un cas de cancer, hein, qui était extrêmement grave, puisque c'est un cancer qui malheureusement aboutit au décès. Finalement, ça a été heureusement écarté. Il a été vu par énormément de médecins. Et puis finalement, juste avant son premier anniversaire, on est sorti de l'hôpital. Il allait mieux. Et finalement, on ne savait pas d'où ça venait. Et voilà. Donc là, on a décidé d'aller voir un autre pédiatre. On a dit, on va changer de maison. Et ce médecin, lorsqu'il a vu mon fils, a nommé en fait un syndrome en disant « Quand je le vois, je pense au syndrome de Williams-Eberen. » J'ai dit « Mais vous connaissez ?» Il dit « Non, j'ai vu ça quand j'étais interne, sachant qu'il avait déjà 30 années de métier. » Bien, mais il nous dit ça comme ça, parce qu'il nous dit « Est-ce qu'il a été vu par un généticien ?» Il dit « Ah non, ça, ça ne fait pas partie du lot. » Mais voilà, lui, il pensait à ça. Mais bon, il nous a livré cette information comme ça, j'allais dire d'une façon, alors pas brutale, mais voilà, je pense à ça et je sentais qu'il y avait quand même une forte suspicion. Mmh. Et en rentrant, j'ai fait ce qu'il ne fallait surtout pas faire, parce que nous étions donc en 2004, Internet n'en était qu'à ses débuts. Et j'y suis allée sur Internet et j'ai tapé « syndrome de Williams-Eberen ». Et là, je suis tombée sur un site qui disait tout ce que mon enfant... Enfin, je ne savais pas qu'il l'avait, mais tout ce que les personnes atteintes de ce syndrome ne pouvaient pas faire dans la vie. Jamais de ce qu'elles pourraient faire, mais de tout ce qu'elles ne pourraient pas faire. Et avec des photos, justement, de personnes atteintes de ce syndrome et qui n'étaient vraiment pas... joyeuse, qui ne m'était pas à l'honneur. Et je me souviens avoir refermé, c'était un portable, j'ai refermé l'écran de l'ordinateur en disant « c'est pas mon fils ». Donc voilà, j'ai pris ça, j'étais toute seule. Néanmoins, j'avais eu le temps de parcourir un petit peu la fiche descriptive, on va dire, la liste des symptômes usuellement découverts. Et le soir, quand mon mari est rentré, je lui ai dit « écoute, sur les 8 symptômes que j'ai lus, décrits, Valentin en fait en a 7 ». Il y avait le retard de poids à la naissance, il y avait la hernie inguinale, les problèmes de déglutition, et puis l'hypercalcémie et d'autres choses. Et là, on s'est dit, on peut croire aux coïncidences, mais pas à ce point-là. Et entre-temps, l'hôpital Trousseau, en fait, nous a rappelé, puisque le dernier jour avant sa sortie, il avait été vu par un cardiologue qui avait décelé un léger problème au cœur, et ce problème au cœur associé à la calcémie là, clairement, à orienter les médecins vers le diagnostic. Et donc, ils nous ont demandé si on était d'accord pour faire donc, les tests génétiques sur notre fils. Et là, on a dit oui.
Et donc, ça consistait à faire quoi ?
Donc, c'est un prélèvement sanguin. Alors, ce n'était pas un simple prélèvement sanguin. C'est une recherche vraiment spécifique sur le chromosome 7. Donc, c'est assez technique. Mais voilà, c'est une recherche précise sur cette pathologie. Et entre-temps, voilà, Valentin a été réhospitalisé parce qu'il perdait à nouveau du poids et ne s'alimentait plus. Donc on a profité en fait de cette hospitalisation voilà, pour faire tous ces tests et on nous a dit voilà, est-ce que sait-on jamais, peut-être que vous êtes aussi vous porteur de ce qu'on appelle une micro-délétion, donc on a accepté en se disant bah sinon on est porteur, on se débrouille pas trop mal dans la vie, donc finalement voilà. Nous n'avions pas encore les résultats, Valentin était hospitalisé pour donc normaliser son alimentation et bon, la faute à pas de chance, il a également contracté la varicelle et on nous a mis dehors sans avoir pu mettre en place l'hospitalisation à domicile, la HAD, puisque la varicelle était en fait un cas de fort risque pour les enfants du service dans lequel était mon fils. Mmh. Donc on s'est retrouvé le 22 décembre, à deux jours de Noël, à devoir gérer tout seul. Sa nutrition entérale, voilà, donc c'est un pareil, comme il n'arrivait plus à déglutir, eh bien, il avait une sonde en fait nasogastrique, donc qui passait par le nez et qui passait par l'œsophage et qui arrivait à l'estomac pour qu'il puisse s'alimenter. Deux jours après, en fait, on a eu la confirmation du diagnostic du syndrome donc de Williams-Eberen.
Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, déjà dans ta tête ?
Alors, déjà, le diagnostic, en fait, il nous a été livré par téléphone, chose qui ne se fait en fait jamais. Mmh. Mais dans notre cas, les 24 premiers jours d'hospitalisation de notre fils, plus la deuxième semaine, nous avaient permis vraiment de nous rapprocher du néphrologue qui est devenu son médecin référent. Et voilà, il y a une relation, je ne dis pas amicale, mais en tout cas de confiance mutuelle qui s'est nouée. Et il a senti en nous, je pense, la possibilité voilà, d'entendre à distance le diagnostic, surtout que nous, on était vraiment demandeurs. Donc c'est lui qui m'a annoncé par téléphone, je m'en souviens encore, c'était l'après-midi, Thomas allait partir en promenade sur les bords de Marne avec ses grands-parents, il faisait beau, Valentin dormait, et j'étais seule dans le séjour et j'entends ça, et j'ai raccroché, j'ai ouvert, je me souviens vraiment, j'ai ouvert la porte du séjour et je me suis tournée vers mon père et je lui ai dit « il l'a », je les ai laissés avec ça, je me suis effondrée, j'ai appelé mon mari qui était donc au travail, qui est resté comment dire, il a quasiment rien dit si ce n'est bah on va voilà quoi, on va se battre, on va l'accompagner. Ce qu'il ne m'a pas dit, c'est qu'il s'est effondré lui par derrière, il ne voulait pas me le montrer, donc il a appelé sa mère et il a craqué, mais ça voilà, je l'ai su que bien plus tard. Il voulait vraiment montrer que voilà, on est fort et on va y arriver. Et moi, j'ai un peu oublié le reste de la journée. J'ai employé cette expression, je me suis pris un 33 tonnes dans la figure. Je ne savais plus où j'étais. Et en même temps, j'avais un nom sur tous les problèmes de mon fils. Donc c'était à la fois la terreur parce que j'entrais dans le monde du handicap, qui est un monde bah, qui fait peur. Déjà parce que c'est l'inconnu, première chose. Deuxièmement, parce qu'on a... On a des projections, on a des idéaux, on s'imagine une vie de famille, voilà, d'une certaine façon. Et finalement, tout ça vient tout chambouler. Mais surtout, j'avais une explication à tous ces troubles. Et donc, on s'était dit, bah, finalement, on le sait, il a un an. On va pouvoir l'accompagner au mieux. Et là, on a contacté... donc, il y avait deux associations qui existaient. La première... qui donc, c'était le site sur lequel j'étais tombée avec toutes ces informations absolument catastrophiques, et une deuxième association, et autour des Williams, dont la vice-présidente Anne-Laure m'a contactée en fait quasiment aussitôt, et nous a proposé le 24 décembre de la rencontrer, puisqu'en fait sa famille, ses parents étaient dans la ville limitrophe de la nôtre. Et donc le 24 décembre, on a confié les enfants aux grands-parents et nous sommes allés rencontrer Anne-Laure avec son petit bouc qui a un an de plus que Valentin, Marius, mais qu'on ne voulait pas... je le disais franchement, j'avais peur de le voir parce que j'apprenais déjà que mon fils avait cette maladie. Mmh. Mais à ce moment-là, rencontrer un autre enfant qui avait la même maladie, c'était très difficile parce que mon fils était unique et j'avais pas envie de l'associer à une maladie, tout simplement. Mmh. Néanmoins, la rencontre s'est faite et c'était absolument fabuleux. Parce que je revois encore les yeux de Marius et je revois son sourire, je revois les câlins qu'il m'a fait. J'envoie Anne-Laure, qui est une personne extrêmement solaire et qui porte cette association depuis maintenant 15 ans et qui est d'un dynamisme à toute épreuve. Et immédiatement, on s'est dit, c'est ce qui va nous aider à avancer. Moi, j'attendais du soutien, j'attendais de l'écoute, du partage avec les autres familles, surtout les mamans, parce que ce sont surtout les mamans qui ont envie de se confier. Mon mari lui attendait beaucoup d'informations médicales. Et puis on attendait également des informations sur quel dossier mettre en place, quelles aides proposer, tout un suivi en fait à organiser.
Toutes les premières démarches.
Les premières démarches, voilà.
Toute l'annonce tombe en fait.
Voilà, exactement. À partir de là, la fin de l'année, Valentin a encore rechuté. Donc je ne sais plus si on a terminé l'année ou débuté l'année encore à l'hôpital. Il me semble que c'est en début d'année. Où son état s'est sacrément dégradé, il ne s'alimentait plus du tout. Donc là, il a été hospitalisé bien sûr en urgence. Là, c'était compliqué, on était toujours à trousseau, mais il y avait le service de gastro-entérologie et de néphrologie qui se battaient, qui n'étaient pas d'accord sur le protocole à suivre. Donc ça, c'était très douloureux pour nous, parce que là, on avait le diagnostic, mais on voyait notre fils qui sombrait vraiment, vraiment, vraiment. Et en fait la question c'était est-ce qu'on continue à le nourrir par une sonde nasogastrique ou est-ce qu'on lui fait ce qu'on appelle une gastrostomie, c'est-à-dire est-ce qu'on le nourrit par le ventre. Les deux n'étaient absolument pas d'accord et un jour on leur a dit vous pouvez ne pas être d'accord mais gardez vos désaccords pour vous et dites-nous une décision et on vous suit. Et en fait ils ont décidé de laisser sa chance à Valentin de s'alimenter normalement. Mais évidemment, il ne sortait pas de l'hôpital, il était sous surveillance pondérale plusieurs fois par jour. Et dès si au bout de 8 jours, il n'a pas stabilisé son poids, on l'envoie au bloc. Le matin du 8e jour, Valentin avait stabilisé son poids. Donc là, je me suis dit, toi, t'es un petit guerrier, tu vas y arriver. Et à partir de là, c'était un nouveau combat, quoi. C'était effectivement l'accompagner dans ses apprentissages. Mais c'était également penser à son grand frère, parce que je me dis que pendant toute cette période, depuis, surtout 2 mois, depuis le 6 novembre jusqu'à début janvier, Thomas, pour le préserver, en fait, on ne lui parlait pas beaucoup. Mm. On se disait que on ne lui parlait pas beaucoup. On ne lui parlait pas de son frère et de ce qu'il subissait et de ce qu'on avait appris. On s'est dit, on va passer du temps avec lui. Sauf que, en voulant bien faire, on a mal fait, je pense. Puis en fait, il nous entendait, nous les adultes. Il était dans sa chambre, mais en fait, il nous écoutait, il nous entendait.
Il avait quel âge ?
Il avait 2 ans. Il avait 3 ans et demi. Ouais. Il était en petite section maternelle. Et c'est vrai que l'enseignante avait tiré la sonnette d'alarme. Donc Thomas ne va pas bien, Thomas est très agressif, etc. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Et en même temps, je sombrais. Là, je sentais que le mois de janvier était... Bien qu'on se dise, OK, on y va, on est une équipe de guerriers, là, je sentais que moi, je sombrais vraiment en dépression, quoi, je le dis clairement, parce que j'avais tout à supporter, sachant que j'avais laissé ma classe du jour au lendemain, je ne travaillais plus, puisque mon fils était hospitalisé, c'était compliqué. Je croisais de temps à autre quand même mes élèves, puisque je travaillais dans la ville où j'habite. Donc mes élèves étaient aussi inquiets, les parents d'élèves aussi, parce que j'allais chercher comme Thomas à l'école maternelle. C'est une période, j'ai l'impression de l'avoir traversée dans un complet brouillard, en fait, sans vraiment savoir où j'allais. J'avançais vraiment, au jour le jour, j'avançais heure par heure. Et le mot handicap, je ne l'acceptais absolument pas. Je disais syndrome de Williams, c'est Buren du bout des lèvres. J'avais quand même beaucoup de mal avec ce mot. Mais on a mis en place, on a commencé à être pris en charge par ce qu'on appelle un CAMS, donc un centre d'action médico-sociale précoce, qui prend en charge des enfants en situation de handicap pour mettre en place des séances de psychomotricité, éventuellement d'orthophonie. Les médecins référents sont des médecins psychiatres. Il y a une assistante sociale qui nous a aidé à monter notre premier dossier administratif pour la reconnaissance du handicap de Valentin et pour... faire aussi des démarches pour avoir des compensations financières, parce que quand on cesse son travail et qu'on a aussi des frais qui ne sont pas pris en charge par la Sécu, il y a une petite compensation. Et puis on continue à avancer comme on pouvait. Mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, un mois et demi après, on nous a tout simplement dit que Valentin était radié de la crèche. Sans autre explication que vous comprenez, quand on a accueilli Valentin, on avait déjà notre quota d'enfants handicapés, et là on dépasse les quotas. Ok, Yorkais. Et la deuxième raison était que son traitement médical n'était pas compatible avec la vie en collectivité, mais il n'avait pas de traitement médical. Et le médecin, en fait, qui l'a vu, il l'a vu en tout et pour tout, je crois, 12 minutes 40, un truc comme ça, en gros, lui a fait son procès en disant qu'il n'était pas adapté à la vie en collectivité, alors que le service de neurologie de Trousseau disait qu'au contraire, il fallait qu'il soit socialisé, qu'il fallait qu'il ait la vie la plus ordinaire possible. Néanmoins, voilà, il a été radié, et là, on s'est dit que c'était eux qui avaient plus à perdre, en ne s'occupant plus de notre fils. Et on aurait pu faire des démarches, on aurait pu aller, je pense, même jusqu'à des actions en justice. Mais là, à ce moment-là, notre énergie et notre volonté, on voulait vraiment les mettre ailleurs, c'est-à-dire dans le soutien de Valentin, mais également préserver l'enfance de Thomas.
Est-ce que tu avais un petit peu de temps pour toi à ce moment-là?
Non, là, j'étais entre l'hôpital, les séances de psychomotricité et l'école maternelle et la maison. Donc c'était tout mon univers. L'école maternelle où j'allais chercher Thomas, mais où je n'enseignais plus. J'avais l'impression, en fait, qu'on m'avait absolument tout enlevé. C'est-à-dire je ne pouvais plus travailler. Ça, c'était une chose. J'avais plus de mode de garde. Et en fait, je subissais tout. Donc je l'ai vraiment très, 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 très mal vécu. Et c'était très difficile pour mon mari et moi, parce qu'en fait, même si on est très soudés, qu'on avait la même envie d'accompagner nos enfants, je crois que l'un et l'autre, en fait, on accusait le coup de façon différente, et du coup il y avait beaucoup de tension, beaucoup d'énervement, beaucoup de colère qui n'était pas, en fait, dirigée contre l'autre. C'était contre le monde entier. Mais en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas bien? La rancœur et la colère, elles ressortent surtout dans la famille, dans le cercle proche. Donc c'était vraiment très, très tendu. J'ai des images aussi, je me souviens m'être mise à fond dans le ménage. J'avais un besoin de récurer ma maison. En fait, avec le recul, j'ai analysé tout simplement comme un recours que j'avais et un moyen d'avoir prise sur le quotidien, puisque tout m'échappait. En fait, dans l'histoire, je subissais tout. Je subissais le suivi médical de Valentin, je subissais ses problèmes d'alimentation, je subissais vraiment tout ce rythme. Et donc voilà. Astiquer ma maison, c'était tout ce que j'avais trouvé, pour, on va dire, évacuer et avoir le sentiment que je maîtrisais quelque chose. Là, j'ai ressenti le besoin, par contre, d'aller voir un médecin pour me faire suivre, parce que clairement, je...
On ne te l'avait pas du tout proposé ?
J'ai oublié, je pense que si. Je pense qu'une fois qu'on a eu le diagnostic, après, on était reçus par la diététicienne et la neurologue, qui ont été vraiment très, très bien. Et à ce moment-là, d'ailleurs, j'avais confié quelque chose, c'est que je me sentais responsable, en fait, de la maladie de Valentin. Puisque, comme je l'avais dit tout à l'heure, quand je suis tombée enceinte de Valentin, je ne m'y attendais pas. Et donc, je m'étais dit, je ne m'y attendais pas. Et donc, sur le coup, je n'avais pas été gagnée par l'enthousiasme que j'avais eu pour la première grossesse tout de suite. Et je me suis vraiment clairement sentie responsable. Là, la neurologue m'a tout de suite arrêtée en me disant que je n'étais pour rien du tout, que c'est un accident, que c'est une maladie génétique. Qui peut arriver à n'importe qui, les médecins ne l'expliquent pas, et que cette maladie, en fait, était installée dès les premières heures de la méiose, de la division cellulaire. Donc en fait, j'étais enceinte sans le savoir, il avait déjà le syndrome, donc non, je n'y étais pour rien. Mais néanmoins, voilà, ça revient de façon récurrente. Et là, à ce moment-là, voilà, ils nous ont dit, n'hésitez pas à vous faire soutenir, vous faire aider. Et moi, effectivement, c'était un besoin de ma part, pas de mon mari, lui, il trouvait les ressources autrement. Et finalement, je n'ai pas eu besoin tant que ça d'un long suivi. Mais c'était ma seule soupape. Je crois que c'était une ou deux fois par semaine où là, j'y allais et c'était un espace pour moi. Je livrais... Je ne me souviens plus trop. C'est vraiment le flou complet. En revanche, j'ai un moment qui me revient début mai. Donc là, le diagnostic était posé depuis presque 6 mois. Et Thomas venait d'avoir 4 ans. Il prenait son goûter. Et en fait, il était en face de moi, il m'a regardé et il m'a dit « Souris-moi, maman, tu ne me souris plus jamais. » Ça a été l'électrochoc. C'est ce qui m'a permis de me dire « Ouais, ok, t'as raison. » Parce qu'en fait, je m'étais vraiment éteinte pendant 6 mois. Les gens qui me croisaient ne me reconnaissaient plus. Je suis quelqu'un de très souriant, de très optimiste. Mais là, j'avoue que j'avais vraiment perdu ma joie de vivre. Je perdais pied avec tout. Et Thomas, du haut de ses 4 ans, en fait, c'est lui qui m'a insufflé... cette énergie, et du moment où il m'a dit ça, j'ai osé dire que mon fils avait un handicap, et quand j'allais à l'école et que je croisais à nouveau mes élèves, qui s'inquiétaient d'ailleurs, ou les parents d'élèves, pas les élèves, je leur disais pas, mais les parents d'élèves, voilà, ou mes collègues, je leur disais, ben, en fait, Valentin a un handicap. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment aller mieux, à remonter la pente et à l'accompagner au mieux. L'été ensuite est arrivé, et puis bon, la rentrée, ben, en fait, tout ça, naturellement, moi j'ai enfin repris le chemin de l'école. Valentin a été accepté dans une autre crèche, néanmoins à mi-temps, puisqu'il a quand même un suivi, il avait un suivi voilà, à la fois médical et paramédical qui était important.
Une crèche publique.
Une crèche publique, voilà, exactement. Et donc, voilà, j'allais dire, là, la vie est devenue beaucoup plus douce. Et il a passé 2 ans dans cette crèche où il a été vraiment merveilleusement accueilli. On a décidé au bout d'1 an en fait de lui laisser 1 an de plus avant qu'il aille à l'école, comme il était de fin d'année, qu'il n'était pas propre et qu'il avait quand même un retard. Donc tout ça a été vraiment très très bien orchestré, très bien accepté par tout le monde. Et donc moi voilà, je retravaillais, et ma foi tout, j'allais dire. On vivait du mieux qu'on pouvait avec un suivi quand même médical et paramédical qui était important, qu'on essayait de ne pas trop montrer à Thomas, parce que c'était quand même compliqué pour lui. Ce qui était difficile, c'est que voilà, Thomas était un enfant très éveillé, il était en avance, et puis ben, il avait son petit frère qui avait que 2 ans et demi de moins et qui lui était en retard. Mais dès lors que les choses se sont apaisées, on lui a parlé avec beaucoup de transparence, on voulait vraiment plus qu'il y ait de tabou autour de tout ça, et en même temps on voulait pas non plus que la maladie soit présente au quotidien. C'était donc on jouait voilà là-dessus, mais j'allais dire la famille, on était 4 et on se sentait pas invincible mais presque.
Et alors quels sont les symptômes du syndrome de Williams et Bren?
Alors il y a donc plusieurs symptômes. Il y a déjà donc un retard mental, alors de léger à modéré, c'est ce qu'emploient les termes qu'emploient les médecins. Il y a souvent une cardiopathie qui n'est pas liée à un dysfonctionnement du cœur, mais à l'absence en fait d'un gène, l'élastine. C'est un petit peu compliqué, mais bon voilà, qui nécessite un suivi à vie, puisque ça peut entraîner une hypertension artérielle. Il y a également, alors un terme médical que je déteste, mais qui est une réalité, ils ont un faciès commun. Alors ça, quand j'ai entendu ça, j'avoue, j'ai pas très très bien pris. En gros, les personnes concernant de Williams et Buren, on les reconnaît quand on en a rencontré un ou fréquenté un. Donc c'est vrai que voilà, je vois une personne porteuse du syndrome, évidemment je ne vais pas vers elle dans la rue parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas diagnostiquées, mais je les reconnais. Ensuite, l'autre caractéristique qui est vraiment particulière, alors qui vaut cette appellation, je trouve, déplacée de la part des médecins, c'est le syndrome le plus sympathique. Non, c'est pas un syndrome sympathique, mais c'est juste qu'il y a une hypersociabilité. Donc ce sont des personnes extrêmement attachantes, souriantes, et qui lient connaissance très facilement, trop facilement. Donc quand ils sont petits, c'est charmant, parce qu'ils ne sont pas farouches du tout. En grandissant, voilà, on apprend à Valentin à mettre de la distance avec les gens, puisque les codes sociaux ont du mal, du coup, à être intégrés. Néanmoins, voilà, ils sont habités par une gentillesse extrême. Ça, vraiment, la méchanceté, je crois qu'ils ne la connaissent pas. Dans de très rares cas, malheureusement aussi, 10% à peu près, il y a un spectre autistique qui est associé. Donc là, ça engendre d'autres difficultés. Ils ont des troubles de l'attention, des troubles visio-spatiaux. Et puis après, il peut y avoir d'autres atteintes. Donc, comme je parlais de la calcémie de mon fils, ça a entraîné une atteinte au niveau rénal. Et après, il y a des prédispositions également au diabète à l'âge adulte. Mon fils est concerné. Il y a également des problèmes de dentition, une dentition petite, manquante. Donc là, c'est pareil, c'est un suivi à vie. Voilà, je crois que j'ai dressé un tableau assez exhaustif. Mais c'est c'est en fait une surveillance à avoir à la fois au quotidien et sur le long terme. Les personnes concernant de Williams, de ce que l'on sait, peuvent avoir une espérance de vie ordinaire, mais en même temps, comme il y a très très peu de cas, puisque c'est une maladie orpheline, ça veut dire qui touche moins d'une personne sur 2000, et en l'occurrence, une naissance pardon, sur 2000. En l'occurrence, dans le syndrome de Williams, on est à peu près à une naissance sur 10 000. Quand Valentin est né, on nous annonçait une sur 30 000. Alors, c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'ils sont beaucoup mieux diagnostiqués aujourd'hui, puisqu'effectivement, la recherche avance, on fait quand même des progrès. Donc, les diagnostics sont faits même pendant la grossesse, dans certains cas. Donc, ça reste une maladie rare. Et même si voilà, la recherche avance, à l'heure actuelle, il n'y a aucun moyen de guérir de cette maladie.
Et physiquement, ils peuvent se déplacer
Oui, alors c'est pas un handicap moteur. Il y a des atteintes motrices au sens où voilà, ils ont des durcissements des tendons, ils ont, certains peuvent avoir vraiment des douleurs, ils ont une posture un petit peu voûtée, mais voilà, ils sont aptes à part, j'allais dire, une forme de maladresse et de difficulté au niveau de la psychomotricité, ils peuvent à peu près pratiquer voilà, toutes les activités. Nous, on va au ski. Alors, Valentin a un niveau de ski qui n'est pas celui d'un futur champion, mais il y va avec beaucoup de plaisir. Il fait du vélo, il fait de la trottinette. En revanche, s'il fallait ramer, ben là, il y a un problème de coordination motrice. La course, ben, il court, mais bon, il se fatigue assez vite. Sauter des haies, par exemple, parce que ça lui arrive en sport, là, c'est quasiment impossible pour lui. En même temps, on ne lui demande pas non plus d'être un champion olympique. Il sait nager. En revanche, il a une nage pas très orthodoxe. C'est-à-dire, ça nage à lui, mais il a son brevet. Et ça, c'était important pour nous. C'est-à-dire, s'il tombe à l'eau, il n'y a pas de problème. Et voilà, il regagnera la côte, sauf si elle est vraiment bien sûr très très loin, mais il ne coulera pas. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel.
Et alors, vous avez décidé d'ajouter une personne nouvelle.
Oui, alors ça a pris du temps. C'est vrai que, sincèrement, vraiment pour tous les deux, après le diagnostic de Valentin, mais vraiment on s'est dit, plus d'autres enfants. On veut se consacrer déjà aux deux qu'on a, sachant que notre deuxième, bah, il prend la place de deux déjà. Voilà, donc là, on était très clair. Et puis, quand Valentin avait à peu près 3 ans, j'étais encore dans ma frénésie de ménage. Et je rangeais les biberons de la maternité que j'avais encore conservés comme des reliques. Et je me souviens être allée voir mon mari, il lui avait dit, voilà, en fait, je les jette. Hein. Et là, il m'a dit, mais pourquoi pas? Et j'ai dit, tu peux préciser ta pensée? Il m'a dit, bah, juste pourquoi pas? Et donc, moi, j'ai commencé un petit peu à analyser ce qui se passait en moi. Et sincèrement, dans un premier temps, j'ai été très claire, je dis non, je ne suis pas prête parce que je voyais cet enfant comme un pansement pour ce petit frère. Enfin, pansement pour lui et pour nous. Je m'étais dit, voilà, on va apaiser beaucoup de choses. Je me dis, oh là là, surtout pas, je ne veux pas faire reposer ça sur ses épaules. Donc j'ai laissé passer du temps. Après, je me dis, oh ouais, ça serait chouette si j'avais une fille. Je lui dis, ok, non, tu n'es toujours pas prête parce qu'a priori, tu ne pourras pas maîtriser ça non plus. Et finalement, c'est une année plus tard à peu près où j'ai vraiment, vraiment moi-même ressenti le désir d'un autre enfant. Et mon mari aussi. Ce qui fait que là, on s'est dit, ok, bah, banco, on y va. Et puis, bah, lui, comme pour Thomas, finalement, contrairement à Valentin, il s'est fait attendre une année. On a, voilà, une année. Donc, je trouve ça assez étrange que le premier et le dernier aient tardé à venir et que Valentin, c'était la petite pochette surprise à tout point de vue.
Est-ce que la question du handicap s'est posée à ce moment-là?
Oui, en fait, même si la maladie de Valentin est vraiment... purement accidentelle, la généticienne et la neurologue avaient donné leur accord pour que soient faites des investigations dans le cas d'une autre grossesse. D'autant plus que voilà, j'approchais des 37 ans et donc on s'était dit on est à l'âge limite pour les investigations pour la trisomie, donc on va rajouter le test génétique. Là, effectivement, ce n'est pas une simple demande. Il faut vraiment un accord d'un généticien ou d'un neurologue. Donc nous l'avions. Et donc, on a choisi, quand je suis tombée enceinte, de faire cet examen. On nous a proposé une chorio-synthèse. Donc c'est en fait un prélèvement des cellules du placenta et ça se fait très très tôt dans le terme, au bout de 6 semaines de grossesse. C'est que ça m'a permis vraiment, moi, de me dire « Ok, je vais savoir ». Et mon mari et moi, là, on était très clairs. Autant pour Valentin, on n'envisageait pas notre vie sans lui. Autant là, si on apprenait qu'il y avait un autre bébé porteur du syndrome, pour nous, c'était clair, on procéderait à un avortement thérapeutique. J'ai eu les résultats très tôt. Et donc, très tôt, j'ai appris que j'attendais un petit garçon. Donc, voilà, un troisième petit garçon. Donc, comme ça, j'ai pu me faire à l'idée. Et on a attendu, on va dire, les 3 mois réglementaires, disons que nous nous imposions, on sortait de cette zone de risque, pour annoncer à l'entourage et notamment l'annoncer à Thomas. Je lui ai dit un matin, bah, écoute, tu vas avoir un deuxième petit frère. Et là, la réaction de Thomas, qui n'avait même pas 6 ans, il avait 6 ans, m'a beaucoup surprise. En fait, il m'a dit, mais est-ce qu'il a la même maladie que Valentin? Donc là, gros blanc, et je lui ai dit, bah, non. Et puis bah, lui, avec ses questions toujours très, de plus en plus pointilleuses, me titillait, me disait « Mais comment tu le sais ?» Je lui dis bah, « Écoute, parce qu'on a fait des examens les docteurs le savent, mais comment est-ce qu'ils le savent ?» Donc voilà, je lui ai donné pas mal d'informations. Et bah, il est reparti avec ça, et je crois que c'était vraiment quelque chose qui l'a énormément, énormément soulagé. Mais ça nous a aussi beaucoup questionné sur, voilà, il n'a même pas 7 ans, la maladie de son frère est déjà extrêmement présente dans sa vie, donc il va vraiment falloir qu'on fasse attention. Cette troisième grossesse a été merveilleuse. J'étais absolument énorme et bébé aussi. Donc pour moi, c'était très rassurant parce qu'en fait, Valentin était tellement petit et en fait, quelque part, j'associais son faible poids à ses soucis que là, je voyais mon ventre, mais qui, c'est-à-dire, j'étais enceinte de 2 mois, c'est comme si j'étais enceinte de 5 mois. C'était vraiment. Et à la fin, j'ai fini, j'étais une vraie baleine qui roulait, quoi. Et effectivement, Louis faisait presque le double du poids de Valentin à la naissance. Et là, je me souviens qu'en salle de travail, où le travail a duré également longtemps, hein, 20 heures, on faisait les pronostics avec mon mari. Et je me souviens même qu'à la dernière échographie, on nous annonçait un bébé de 3,5 kg. Alors déjà, nous dépasser les 3 kg, c'était miraculeux. 3,5 kg, n'en parlons pas. Et en salle de travail, on jouait tous les deux. Alors, t'en penses quoi? Mais je sens bien presque 4 kg. Mon mari dit non, 3,5 kg. Et quand il est né, alors 3,955 kg. Et en fait, c'était pour nous, mais... Une victoire, quoi. C'était vraiment... Et il venait à peine de naître, qu'on lui donnait déjà un mois. Et alors que Valentin, voilà, j'avais encore cette image de lui, tout frêle, tout petit, tout chétif. Donc c'était une renaissance.
Comment il a accueilli, Valentin, l'arrivée d'un bébé?
Ah, il était super content. Les deux frères, hein. Franchement, c'était, c'était vraiment très, très chouette. Alors, on avait peur, ce Valentin, voilà, comme il a des problèmes psychomoteurs, dire, oh là, il faut qu'il fasse attention, qu'il le tienne dans ses bras. Mais non, il était très, très content. Valentin commençait effectivement à parler. Donc, Louis est arrivé dans un foyer qui était heureux et on avait le sentiment de plénitude. On avait l'impression que ça y est, l'équipe était au complet. Et qu'on allait pouvoir vraiment avancer main dans la main, quoi.
Et alors, comment s'est construit cette fratrie
Alors, Thomas a énormément investi Louis. Je crois que vraiment, quelque part, il s'était dit, voilà, j'ai un petit frère qui me ressemble plus. Même s'il était encore bébé, il a vraiment beaucoup, beaucoup investi. Il était très proche de Louis, très câlin, alors que petit à petit, l'écart avec Valentin s'était creusé, c'est-à-dire jusqu'aux 2 ans et demi de Valentin, Thomas était très très proche, très affectueux, très câlin, très protecteur. Et petit à petit, quand Valentin a commencé un petit peu à prendre ses jouets, Thomas n'a pas trop accepté. Et puis il comprenait, il voyait la différence de son petit frère. Donc quand Louis est arrivé, quelque part, il venait un petit peu rétablir l'équilibre. Et puis quant à Louis, Louis il a toujours connu ses deux grands frères. Donc pour lui, il les a acceptés tels qu'ils sont. Et surtout Valentin, mais petit à petit, il y a les premiers mots de Louis par maman, papa, c'était aval Valentin, puisque la nourriture de Valentin, et ça j'ai oublié de le préciser, mais était toujours compliquée. Valentin n'a commencé à manger des morceaux qu'à l'âge de 6 ans, et puis c'était poussif. Et puis Louis, lui à 9 mois, il prenait déjà la cuillère, il mangeait déjà tout seul à la crèche d'ailleurs, ils étaient la halte garderie très étonnée parce que Louis mangeait proprement, à 9 mois il tenait sa cuillère parfaitement bien, il n'en mettait pas du tout à côté, enfin c'était pour nous assez déroutant. Et à tel point que même à un moment, Louis a développé, je dirais pas des comportements boulimiques, mais dès que son assiette se terminait, il hurlait, il se débattait. Enfin, en fait, on avait deux opposés à table, l'un à gauche, l'autre à droite. Et ça, par contre, c'était quelque chose de difficile à vivre. Parce que d'un côté, on devait en forcer un presque à manger. Je dis forcer, je mets des guillemets. Et de l'autre, on devait le réfréner. Donc là, on s'est dit, la maladie, elle est quand même présente et elle impacte quand même la vie familiale. Donc, il faut quand même qu'on fasse attention. Et l'écart entre Thomas et Valentin s'est de plus en plus creusé. Thomas est vraiment devenu assez distant vis-à-vis de Valentin, comme s'il lui en voulait. Et Louis, ce qui était compliqué, c'était qu'en fait, il n'acceptait pas. Il comprenait, il sentait plutôt... qu'il avançait assez rapidement et que petit à petit, il se rapprochait en fait du niveau d'apprentissage de Valentin. Et ça a été très compliqué pour lui, notamment quand il est rentré en CP. Valentin savait déjà lire, mais Valentin avait des soucis de mémorisation et de compréhension de toutes les notions mathématiques, abstraction. Et Louis, tout allait beaucoup plus vite. Et en fait, il y a un moment, il s'est complètement mis en retrait. Et c'est comme s'il s'empêchait de progresser, comme s'il s'empêchait d'avancer. Et donc je me souviens vraiment d'avoir beaucoup parlé avec lui en lui disant que on était tous différents, qu'il n'y avait pas du tout de gêne à avoir si lui-même savait plus de choses que son frère, parce que dans d'autres domaines, Valentin savait énormément de choses, mais que tout ça devait se faire vraiment dans beaucoup de bienveillance. Et Louis a mis du temps à comprendre qu'il était petit dernier, mais qu'en fait, il allait dépasser son frère à tout point de vue. aujourd'hui, où les deux sont l'un en préadolescence et l'autre adolescent, c'est plus compliqué parce que là, Louis affirme bel et bien sa place dans la fratrie. Mmh. Ça, on l'a bien compris, il est bel et bien là. Et Valentin se rebiffe aussi, ne se laisse pas faire. Donc, ils sont comme chien et chat, mais j'allais dire, je crois, finalement, comme dans toutes les fratries.
Comment se passe la vie de Valentin dans cette société qui ne donne pas forcément la place au handicap ?
Alors, ce qui a été compliqué, c'est que donc, quand il avait un an, donc radié de la crèche, fin de son premier CP, bien, dans l'école où j'enseignais, j'ai dû le sortir de cette école puisqu'il était le malvenu. Donc là, c'était très compliqué. Donc moi, je me suis battue pour qu'il ait la scolarité la plus ordinaire, mais donc il a intégré ce qu'on appelle une classe Ulysse, donc une classe spécialisée, mais dans une école ordinaire. Il s'est reconstruit comme enfant d'abord, puis comme élève ensuite, et il est redevenu le petit garçon souriant qu'il a toujours été. Donc il a suivi son bonhomme de chemin. Et donc aujourd'hui, il est rentré en Ulysse lycée. Professionnel, donc toujours une classe spécialisée, avec donc des enfants qui, comme lui, sont porteurs de handicap cognitif.
C'est des écoles qu'on trouve
Alors en fait ce sont des classes qui sont vraiment réparties dans les écoles, collèges et lycées, publics ou privés. Ce ne sont pas des établissements à part, ce sont les classes qui sont vraiment dans un établissement. Et quand l'enfant le peut, en fonction de son degré d'autonomie et de son niveau d'apprentissage, il va assister à des cours ordinaires en classe de CP, CE1, CE2 ou au collège, en SVT, en technologie, enfin ce qu'a fait Valentin. C'est un dispositif qui leur permet d'apprendre à leur rythme. C'est un petit effectif, ils sont 12, c'est une enseignante spécialisée. Et disons que depuis la loi du handicap de 2005, voilà, la scolarisation des enfants handicapés, elle est vraiment au cœur des préoccupations. Il y a peu de dispositifs, mais quand il y en a, dans la mesure du possible, dans les établissements, il y a vraiment un regard qui est posé sur le handicap qui est différent. Ça dépend encore une fois des établissements et des enseignants. Mais mon fils a été vraiment préservé. Voilà, j'ai réussi à trouver des établissements où il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, hein, de prise en compte de sa particularité. Et en même temps, une sensibilisation dans l'établissement au handicap, ce qui fait que bien sûr, dans le cours de récréation, il s'est déjà pris des réflexions. On l'a déjà traité de débile. Mmh. On lui a dit « Ah ben toi, t'es en Ulysse, donc t'es handicapé. » On ne lui a jamais caché le mot handicap. On lui a expliqué ce que c'était. Il le sait très bien. Mais en revanche, débile, ben non, il n'est pas débile. Simplement, voilà, il a plus de difficultés que les autres enfants. Il avance à son rythme. Mais surtout, ben, il est très, très heureux. Et ça, c'est le plus important.
Et toi, alors qui étais effrayée justement d'entrer dans l'univers du handicap, avec le recul, aujourd'hui, les années qui sont passées.
Avec le recul, ce que je dis souvent, si je pouvais d'un coup de baguette magique enlever la maladie de Valentin, je lui enlèverais tout de suite. Néanmoins, mon fils, il est aussi ce qu'il est avec sa pathologie. Et finalement, c'est comme toute chose, c'est quand on ne connaît pas qu'on a peur. Le monde du handicap, en fait, on y est entré, malgré nous, mais on a pris les choses avec beaucoup de recul, et surtout quand on manque de perdre son enfant, puisque ça a été donc le cas pour Valentin, on voit les choses vraiment sacrément autrement. Mmh. Et finalement, c'est une formidable leçon de vie. Je dis pas... nous, on s'estime pas être des modèles, on aime nos enfants. C'est surtout Valentin qui est une leçon de vie, puisqu'au quotidien, il me prouve combien il est courageux, le mérite qu'il a, parce que voilà, il a quand même un suivi médical à vie. C'est une maladie évolutive, il n'en guérira pas en l'état actuel des choses. Néanmoins, le monde du handicap, c'est aussi c'est des belles rencontres, je dirais même des magnifiques rencontres grâce à l'association Autour des Williams.
Que tu as intégrée.
Que j'ai intégrée, alors en tant qu'adhérente, adhérente active, ensuite membre du conseil d'administration, dont je suis sortie parce que j'avais du mal à mener de front tous mes projets personnels et professionnels. Mais c'est grâce à cette association qu'on a accepté, qu'on avance. On se rencontre plusieurs fois par an avec les autres familles, et c'est vraiment une belle famille. Chacun de mes enfants s'y est fait des amis. À dire mon grand, voilà, il y a d'autres frères et sœurs qui vivent son quotidien, et donc du coup ils se retrouvent toujours avec grand plaisir. Ils vivent voilà leur vie d'ado et de jeunes adultes comme ils le peuvent, et du coup ils trouvent une oreille, hein, puisque finalement c'est une oreille attentive, puisque c'est les mêmes choses que vivent les autres. Valentin, il y a également noué de belles amitiés. Et puis Louis également. Donc en fait, et nous, à chaque fois qu'on retrouve les autres parents, enfin, c'est des moments fabuleux. C'est des moments où on part de nos week-ends associatifs avec à chaque fois la gorge nouée et en même temps des étoiles dans les yeux. La gorge nouée parce qu'on se dit c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de bouleversements, parce qu'il y a aussi beaucoup de médecins qui nous accompagnent, qui font partie du conseil médical et scientifique et qui nous font part aussi de leur dernière découverte. On finance beaucoup de programmes de recherche. On agit pour la sensibilisation du grand public au handicap. On mène beaucoup d'actions, voilà, de sensibilisation, des campagnes d'affichage dans le métro parisien ou sur les bus, des petites actions à droite à gauche pour lever des fonds et des émissions télé, radio. Et en fait, on se dit que finalement, grâce à Valentin, la vie, même si elle est plus compliquée, non. Je dirais pas pour nous, parce que finalement, nous, on est quand même préservés, mais pour lui, en fait, la vie, elle est comme sacrément belle, quoi. Et en fait, on se raccroche à ça.
Qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Tout. Je rêvais d'être maman. Ça, c'était un désir d'enfant. Il se trouve que quand j'ai rencontré mon mari, on était sur la même longueur d'onde. Et je me souviens avoir dit à une amie très proche que quand Thomas est né, j'ai dit, c'est comme si j'étais née une deuxième fois, en fait. C'est-à-dire, pour moi, ça a donné tout le sens à ma vie. Je savais pourquoi j'étais sur Terre, vraiment. Et je donnerais tout pour mes enfants. J'ai la chance qu'ils me le rendent merveilleusement bien, parce qu'ils sont extrêmement affectueux, tous les trois. On est très tendres, on est très proches, on est très complices. Je ne peux pas imaginer ma vie sans mes enfants.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Ah, maman parisienne. Maman dynamique, qui réussit finalement à tout gérer de front, ce qui n'est pas forcément évident. Être présente pour ses enfants, mais avoir une existence pour elle-même, être présente pour ses amis. Voilà, c'est une existence pour moi riche à tout point de vue.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris ?
Ah. Alors, Kids Friendly, en fait, voilà, mes enfants, quand même, sont assez âgés par rapport aux jeunes. Et quand ils étaient petits, ça n'existait pas. Voilà, les tiers-lieux, Kids Friendly, etc. Donc, j'avoue que moi-même, j'en ai pas beaucoup fréquenté. Je sais qu'avec les beaux jours, non, même en hiver, j'aime beaucoup flâner, voilà, sur les quais de Seine, aller sur l'île Saint-Louis, le Marais, pousser jusqu'au quartier latin. Enfin, c'est des promenades que j'aime beaucoup faire. Eux, en grandissant, ils sont un petit peu moins fans, on va dire, mais néanmoins, voilà, j'aime beaucoup ces moments-là, faire quelques musées. On est allé à l'Institut du Monde Arabe à Noël, au Jardin des Plantes, enfin voilà, des endroits, au Musée d'Orsay, j'aime beaucoup aussi. Et puis bon, on a la chance, voilà, de beaucoup voyager aussi, donc il y a quand même une ouverture sur le monde. Mais Paris, ainsi, rue Monsieur le Prince, les Japonais, on en est dingue, et ça finit invariablement au Jardin du Luxembourg.
Quels sont les projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Projet rien que pour moi, alors c'est toujours un petit peu difficile parce que j'ai le sentiment de m'être toujours beaucoup consacrée aux autres, et en même temps c'est mon moteur. C'est juste, voilà, avoir des moments comme j'ai avec toi. Une fois par semaine minimum, j'essaie d'avoir un moment avec une amie ou rien que pour moi. Une amie, on se retrouve au restaurant, on va flâner, voilà, dans Paris, on va échanger. Ou alors rien que pour moi, ça va être me plonger dans un livre. Et ensuite, au niveau familial, on est une famille de voyageurs, mais là, avec ce qui se passe en ce moment, on a mis tout en stand-by. Pour l'instant, voilà, il y a des événements familiaux prévus, des grandes réunions de famille, profiter encore plus de la vie de famille, parce que la semaine, elle est comme trépidante. Et même si mes enfants sont grands, ma grand-mère disait petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis, j'ai quand même pas mal de pain sur la planche.
Merci beaucoup, Séverine.
Merci à toi, Chêne.
Merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon, et vous le savez, si ce podcast vous plaît, je vous encourage vivement à en parler autour de vous et à laisser 5 étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Et pour échanger sur le sujet abordé avec Séverine, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 52 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode!
Hold up. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.